RCF.
Bonjour, fidèle auditeur, auditrice de notre émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, avec Agora Défense, dans le cadre du Berry se raconte. Notre invité aujourd'hui, Christian Roth, professeur honoraire d'histoire et géographie au lycée Marguerite de Navarre de Bourges, membre de la Société archéologique du Berry, conférencier émérite, auteur de nombreux articles sur l'histoire du Berry. Christian, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de venir à RCF pour cette fois, non pas directement nous intéresser à la vie militaire, mais à la vie de cette église catholique dans la deuxième moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle, au sein de notre diocèse de Bourges. Période ô combien complexe, où le concordat de 1801, signé par Bonaparte, est malmené par une vie politique en pleine ébullition, suite à la chute du Second Empire et de la mise en place de la République. Alors pour mieux nous imprégner de cette question qui, j'ose dire, est très délicate, nous allons faire un historique un peu de toute cette histoire qui nous mène à la séparation en 1905. Justement, pouvez-vous nous rappeler pour ces grands événements, j'en cite quelques-uns, hein, et là je vais vous laisser la parole, la restauration manquée du comte de Chambord, l'affaire Dreyfus, le gouvernement des radicaux, une période très 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 chargée, mais combien importante. Christian, je vous laisse la parole.
Eh bien, merci. Alors, en effet, on parle souvent de la séparation de 1905, mais qui dit séparation, c'est qu'on a vécu ensemble.
Oui.
L'État et les églises, et essentiellement l'église catholique. Et donc, depuis quand on était vraiment ensemble, sous cette forme-là, c'est depuis le Concordat, vous l'avez dit. Alors, brièvement, le Concordat, c'est 1801, mais la mise en pratique, c'est 1802. Quelle était la situation? La situation des chrétiens et de l'Église de France n'était pas très brillante, parce que au sortir de la Révolution, il y avait 139 diocèses. Alors avec les différents épisodes révolutionnaires, il y a ceux qui ont juré, ceux qui n'ont pas juré, ceux qui sont partis à l'étranger, oui. Ceux qui étaient contre le régime, etc. Et donc la situation était une situation de schisme, il faut le reconnaître. Et Bonaparte aimait bien qu'il y ait un petit peu d'ordre chez lui, pas seulement de l'ordre militaire, mais de l'ordre également dans les esprits, et il comptait bien s'appuyer sur le catholicisme. Mais plus question de faire une religion d'État, comme c'était sous l'Ancien Régime, hein. Et donc, il va s'entendre avec les représentants du pape Pie VII, et on va négocier un concordat, donc c'est qu'on se met ensemble pour réformer la situation. Ce régime va vivre jusqu'en 1905, c'est-à-dire pendant un siècle,
Tout à fait, oui.
Alors, qu'est-ce qu'il en est résulté? Le Concordat, c'est un tout petit texte, 17 articles.
Très peu.
Alors, négocié entre Rome et Paris, la France, mais auquel on a rajouté les fameux articles organiques,
oui.
77, par ça, rédigé côté français, sans rien dire de l'autre côté, et que le pape n'a jamais accepté tout à fait. Pourquoi? Eh bien, parce que, évidemment, par exemple, la nomination des évêques était dans la main du gouvernement. En échange, le clergé bénéficiait d'un traitement, puisqu'évidemment, c'est une reconnaissance de la perte des biens ecclésiastiques issus de la Révolution. Donc, on n'est pas revenu là-dessus, mais... Bon. Et puis, on devait, les prêtres, et donc les évêques en particulier, devaient prêter un serment de fidélité au pouvoir, donc il fallait une certaine allégeance au pouvoir. Le consulat, c'est la République, officiellement encore.
Oui.
Après, il y aura la royauté, l'Empire, etc. Bon, et les choses vont se gâter avec le retour de la République en 75. Voilà. Donc, l'Église a donc été restructurée, mais sur un pied beaucoup moins développé qu'avant la Révolution, je cite de fait. Avant la Révolution, j'ai dit quelques 130 diocèses. À partir du Concordat, c'était une soixantaine. Et deuxième chose importante, ça y est, j'ai oublié, mais c'était... Donc c'est un compromis. Il y a une notion qui me reviendra sous peu de temps. Alors... Donc il fallait choisir les évêques.
Oui.
Parce que alors ceux qui avaient... beaucoup étaient partis à l'étranger. Bon, ils vont quasiment tous revenir. Mais... il fallait démissionner avant d'être renommé éventuellement. Alors, quelques-uns n'ont pas démissionné, et ils ont formé une église particulière, ce qu'on appelait la Petite Église, qui a survécu pendant quelques dizaines d'années, et qui restait fidèle au pape à 100%, si vous voulez. Bien. Et donc, il a fallu choisir, et donc, par exemple, alors, on a pris des gens de l'Ancien Régime, des prêts assermentés, et puis quelques nouveaux, 60, ça ne faisait pas grand-chose. Hein. Ouais. Et donc, pour Bourges, parce qu'il faut parler de Bourges un petit peu, c'est Monseigneur de Mercy qui a été choisi comme évêque. Alors, il n'a rien à faire avec le diocèse. Hein. Il était évêque de Luçon avant la Révolution. À la Révolution, il a émigré, parce qu'il n'est pas du tout pour l'action révolutionnaire, et il s'est réfugié en particulier en Autriche. Alors, il est revenu en 1801-1802. Il a été amnistié, en quelque sorte. Et puis, il a été nommé à Bourges. Donc, il avait été entre-temps député aux États généraux, comme beaucoup d'évêques. Hein. Donc, il était très content, lui, du concordat, puisque ça, c'était une remise en ordre. Et il arrive donc à Bourges, et il va réorganiser l'église de Bourges, comme vont faire tous les évêques et les archevêques, puisqu'il y avait pas mal de pain sur la planche. Les choses vont se compliquer à partir de 1879, en particulier. De 75.
75.
Voilà. Après, en 75, ça va encore. Mais parce que la République, il n'est pas républicain, vous le savez bien. Donc, mais quand en 79, la majorité devient républicaine, alors là, ça devient un petit peu plus difficile. Eh bien, parce que, évidemment, la mémoire religieuse traditionnelle demeure, hein. Le christianisme est donc la religion majorité des Français, mais la laïcisation de la vie, de l'enseignement public, un certain esprit laïque très fort, et même anti-ecclésiastique, fait que cela conduira à la rupture de 1905 avec beaucoup d'accrocs. Mais le principal accroc, c'était les congrégations qui en ont payé le prix, parce qu'évidemment, la Troisième République naissante, Jules Ferry et compagnie, l'enseignement, c'est quelque chose de très important, et on veut bien qu'il y ait quelques enseignants ecclésiastiques, mais pas trop de congrégations qui ne sont pas reconnues ni déclarées.
Et c'est compliqué, hein. Vous qui connaissez bien la question, Monsieur Roth, comment se fait-il que certaines congrégations aient été autorisées? En particulier les congrégations missionnaires. Est-ce que vous avez une idée ?
Non, alors j'ai pas trop réfléchi sur cet aspect de la question. Le gouvernement voulait pouvoir disposer, par exemple, du personnel enseignant. Et dans les écoles libres, il ne disposait pas du personnel enseignant. Il faisait son propre programme comme il le voulait. Et donc, cela a été un point de désaccord extrêmement fort. Hein. Et il est vrai que sur plusieurs domaines, l'Église catholique n'était pas toujours très versée dans la modernité, pour employer un mot large. Et à l'époque de Léon XIII, Léon XIII va reconnaître officiellement que, comme gouvernement, il n'y a pas forcément la monarchie et la royauté, il peut y avoir d'autres formes de gouvernement. Entre parenthèses, un gouvernement républicain peut également exister. Donc ça a été quand même un soulagement pour certains et un crime pour d'autres. Hein. C'est évident qu'il y a eu une opposition intellectuelle à Léon XIII.
Est-ce que vous m'autorisez à dire que M. Combes a été un peu l'accélérateur de tout cela? Alors lui qui a été formé au séminaire.
Combes est un séminariste du Tarn, je connais bien. Bon, mais à l'époque, il a été un des acteurs. Mais ce ne sont pas les extrémistes qui ont fait la négociation.
J'aimerais vous
parce
me
dire. Parce que c'est... Aristide Briand n'était pas extrémiste.
Pas du tout.
Non, pas du tout. C'était un médiateur, on va dire.
Oui, oui.
Le contexte n'était pas n'était plus très favorable. Et il y a eu un clash, puisque c'était une alliance officielle et c'était une séparation... Il y a une séparation unilatérale, puisque c'est le gouvernement français qui a décidé, et Rome a été mis au pied du mur et n'a pas agréé, évidemment, à cette séparation. En particulier, les relations diplomatiques et l'ambassade au Vatican ont été rompues, évidemment.
Tout à fait. Voilà. Donc une séparation qui va nous mener donc en 1905 à la séparation officielle de l'Église et de l'État. Et justement, la transition, eh bien, nous allons voir dans une seconde émission. En particulier, nous allons parler donc de l'archevêque de Bourges qui s'appelle Monseigneur Servenay.
Et qui a été le dernier prêtre archevêque concordataire.
Exactement. Voilà. Merci, cher Christian Roth, pour ces explications. Merci à vous aussi, auditeurs, auditrices, de par votre fidèle écoute à RCF. Et à très bientôt, nouvelle émission consacrée, eh bien justement, à Monseigneur Servenay.